Alors, quand j'ai demandé à Audrey de lire les lectures du jour, je lui ai dit, tu choisis la traduction que tu veux, mais de toute façon, le premier verset est un verset terrible. Mais tu as réussi à trouver la seule traduction peut-être qui à peu près soft. Donc, est-ce que tu peux nous redire? Voilà. Et donc, ce premier verset dans Ésaïe, dans toutes les autres traductions, et alors surtout en hébreu, est assez brutal. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Alors, j'ai cherché aussi des traductions moins brutales, mais je n'ai pas trouvé celle-là. Et puis, je me suis dit que c'était intéressant de s'affronter, hein, à des textes même qui nous semblent obscurs, incompréhensibles. Dans beaucoup de traductions, le mot employé, c'est briser, accabler, endolorir, broyer, et tout ça en parlant du juste, du serviteur de Dieu. Alors, si chacun nous apportions ici les versets bibliques qui nous restent obscurs, ou même qui nous révoltent, on en aurait un bon tas. Même Luther avait les siens. Et pourtant, lui, comme nous continuons à lire la Bible et à y trouver les traces vivantes de notre Dieu. Encore un coup de l'Esprit Saint. À propos des versets difficiles, des situations incompréhensibles, nous aurons l'occasion de partager avec des textes bibliques parlant des épreuves dans le groupe Bible en partage, qui s'est réuni le samedi matin, le deuxième samedi de chaque mois. Qu'est-ce qu'une épreuve? Est-ce autre chose que du malheur? Peut-elle avoir du sens? Quelle est la place de Dieu dans les épreuves? Chacun a sa lecture de la Bible. Et franchement, à l'usage, nous nous rendons compte, séance après séance, des bienfaits d'une lecture partagée. Vous vous souvenez? En Palestine, un soir de printemps, un soir de résurrection, Jésus, sur la route, fait l'exégèse biblique de ce qui le concerne dans la Bible, avec deux de ses amis, qui sont découragés après les événements des derniers jours. Quel texte il a cité ou expliqué? On voudrait bien le savoir. En tout cas, Jésus lisait la Bible, de son époque, hein, bien sûr, et je ne crois pas qu'il enlevait les passages obscurs. Ceci dit, je me souviens bien d'une conférence ici de Nicole Fabre sur le sujet « Dans la Bible, c'est Dieu qui parle ?» Point d'interrogation. Sujet redoutable, qui peut frôler le blasphème, ou tout au moins l'impertinence, eh bien, je le trouve au contraire très pertinent. Et l'approche de Nicole Fabre était aussi pertinente, laissant la place à beaucoup de confiance. Elle disait que la Bible était une œuvre à quatre mains, comme pour le piano. Deux mains humaines, et deux mains divines. Que dans le livre, il y a des passages où on reconnaît bien la main humaine, un peu malhabile, un peu approximative, et d'autres passages où l'on est ébahi devant la beauté, la rigueur, la vérité de la parole divine. Quand je lis dans Ésaïe que le Seigneur, et c'est bien le tétragramme qui est employé, donc c'est bien lui, hein, veut briser son serviteur, je ne peux m'empêcher d'attribuer ce passage à une main très humaine, qui voit, si on peut dire, pour la main, qui voit dans le Seigneur un Dieu en contradiction avec le reste de la Bible. Alors revenons à l'extrait de l'évangile de Marc. Nous lisons la demande de Jacques et Jean, disciples distingués quand même, hein, de siéger aux côtés de Jésus dans sa gloire. Et puis, bien sûr, les autres qui réagissent, et Jésus qui donne sa réponse. Ce n'est pas une réponse, c'est trois réponses. La première, qui, en fait de gloire, est une annonce de la passion. La deuxième, qui remet les idées en place, et où Jésus parle de son Père. Et c'est le Père qui décide et qui mène son peuple. Et la troisième, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Les trois réponses, en fait, n'en forment qu'une seule. Jésus dit qu'il est le serviteur de Dieu, appelé au service de l'humanité. On a vu dans l'évangile de Jean tout à l'heure que l'humanité a les pieds sales. Ça, on le voit tous les jours. Mais que c'est Jésus qui nous les lave, ça, c'est moins banal. Vous savez qu'il y a de très beaux prénoms dans les langues sémitiques, en particulier en arabe, qui signifient « serviteur ». Alors c'est Abd en arabe et Abed en hébreu. Bon, les deux langues sont très proches, ça c'est pas une surprise. Alors un prénom, Abdelmalik, serviteur du roi. Abdallah, ça parle tout seul, serviteur de Dieu. Abdelaziz, on en connaît tous hein, des amis qui portent ce genre de prénom. Abdelaziz, serviteur du tendre. Il y a aussi Abdelkader, Abdelmajid. Je ne sais pas s'il y a un prénom correspondant à chacun des 99 noms de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'être serviteur? En général, ce n'est pas l'avenir dont nous rêvons pour nos enfants. Et puis, la servitude n'est plus notre lot. Nous en avons été libérés. Mais ce renversement des valeurs a l'air important pour Jésus. On trouve pas mal de passages où celui, dans l'évangile, où celui qui monte sera abaissé, où des premiers seront derniers, où des enfants sont donnés en exemple à des adultes sérieux. En fait, je crois que Jésus n'en a rien à faire des valeurs, des honneurs, des préséances. Mais comme ses amis, eux, ils en avaient beaucoup à faire, il a été obligé de mettre les choses au point et d'y revenir souvent. Mais quoi ? Sommes-nous, nous, mieux disposés à renoncer au pouvoir ? Je ne parle pas de renoncer aux responsabilités. Renoncer au pouvoir constitue un vrai chamboulement dans nos vies et une attention constante. Il y a des techniques pour ça. Le lâcher prise, les recettes du bonheur en 10 leçons, le développement personnel pour les nuls. Peut-être que ces méthodes font du bien, en tout cas pas de mal. Mais pour moi, cela ne constitue pas le but de ma vie. Une seule raison peut me donner le désir de servir, c'est Jésus. Si lui était habité par le désir de servir son Père, jusqu'à l'extrême de l'amour, c'est-à-dire jusqu'à donner sa vie même pour cette humanité qui ne comprend pas pourquoi. S'il a communiqué ce désir à ses amis, c'est que c'est la bonne voie. Ses amis, ses disciples, malgré leur faiblesse humaine, n'ont pas suivi Jésus par appétit de pouvoir. Ou alors ils avaient la jugeote sacrément embrouillée. Je crois qu'ils ont compris assez vite que cela allait mal finir. Mais ils étaient humains. Alors ils ont tenté de récupérer la gloire céleste en remplacement de la gloire terrestre bien compromise. Et c'est là qu'ils se font ramasser. Mais pourquoi reste-t-il? Pourquoi serions-nous restés, nous aussi? Pourquoi accepte-t-il ces remises à niveau, on va dire? c'est que eux, comme nous, sentent que c'est cet homme a les paroles de vie. Encore un coup de l'Esprit Saint. Ils comprennent avec le cœur que le bonheur n'est pas de servir pour servir, ni de s'abaisser pour être relevé, ni de perdre sa vie pour la gagner. Ils comprennent que le vrai bonheur, c'est de suivre Jésus. La vraie vie, c'est lui. Et si lui veut servir, alors c'est là qu'est le chemin. On dit souvent servir une cause, avec le lot d'abnégation qui va avec. Eh bien là, il ne s'agit pas de servir la cause de Dieu, si magnifique soit-elle. Il s'agit de suivre le serviteur dans son service, de devenir compagnon, collègue avec lui. Jean, dans son évangile, rapporte des paroles de Jésus: Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. La joie de travailler ensemble. Alors bien sûr, nous sommes malhabiles, peureux, souvent inutiles, mais ça ne l'a pas découragé. Il y a de quoi faire, pas de souci pour ça. Chacun selon ses dons, ses capacités. Mais pas besoin de supplier le Seigneur de nous donner son aide. Il est déjà au travail quand nous arrivons. C'est peut-être lui qui nous prie. Et comme il est très prévenant, cela prend la forme d'une invitation. Ils sont pas du genre timide, hein, les disciples de Jésus. Je te suivrai jusqu'au bout. Où tu iras, j'irai. Mais c'était dangereux, cette histoire. Et pas très confortable comme vie. On a bien vu comment il est mort, lui qui te propose gentiment de venir à sa suite. Personnellement, je n'ai pas une âme de martyr. Je suis plutôt peureuse, je suis un peu douillette et j'aime le confort. Alors servir le Seigneur, bah oui. Servir mes frères et sœurs, bah oui. Suivre le chemin aventureux de l'amour extrême, s'il n'y a pas d'autre moyen, bah on verra. Mais il a dit aussi, ma grâce te suffit. Et il a dit aussi, mon fardeau est léger. Et il a dit encore et surtout que c'était une très bonne nouvelle que de cheminer avec lui. Alors une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'entourloupe. Alors, allons-y. Amen.